Alors, on me demande souvent pourquoi les chrétiens doivent-ils prier? Et la réponse est très simple, c'est parce que Jésus priait. Et si vous prenez le temps d'examiner attentivement l'évangile de Luc, eh bien, vous pourriez changer le titre de l'évangile de Luc et mettre à la place l'évangile de la prière. Vous savez, en faisant une étude sur l'évangile de Luc, je me suis aperçu que Luc aborde finalement les différentes situations de Jésus à sa façon, par exemple, les autres évangélistes écrivent que Jésus fut baptisé par Jean dans le Jourdain, au moment où il sortait de l'eau. Il est écrit « Vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe », alors que Luc ajoute que c'est pendant qu'il priait que le ciel s'ouvrit, que le Saint-Esprit descendit sur lui. Ce qui est extraordinaire dans l'évangile de Luc, c'est que Luc, mine de rien, met énormément l'accent sur la vie de prière que Jésus avait. Par exemple, les autres évangélistes écrivent que Jésus a choisi 12 disciples, tandis que Luc ajoute que c'est après avoir passé une nuit à prier qu'il a choisi ses 12 disciples. Les autres évangélistes écrivent que Jésus est mort sur une croix, et Luc va ajouter, lui, qu'alors qu'il agonisait, Jésus priait pour ceux qui le persécutaient. Les autres évangélistes écrivent que Jésus monta sur une montagne et qu'il fut transfiguré, tandis que Luc va écrire, lui, que Jésus... que c'est pendant qu'il priait qu'il fut transfiguré. Ce matin, j'aimerais simplement vous rappeler, je parle aux vieux chrétiens comme moi, je vais me rappeler aussi beaucoup de choses, le Seigneur m'a rappelé beaucoup de choses en préparant le message. J'aimerais se rappeler particulièrement aux nouveaux chrétiens, que vous puissiez vraiment démarrer sur une bonne base dans votre vie chrétienne. Eh bien, qu'il n'y a rien de plus transformant que la vie de prière. Il n'y a rien de plus transformant que la prière. Souvent, on vient au Seigneur, là je m'adresse aux jeunes, on vient au Seigneur, on est sauvé par grâce, on a reçu le pardon de nos péchés, et ça, c'est ce que la Bible appelle la justification. Et là, par après, on dirait qu'on réalise qu'on était tellement méchant dans notre vie antérieure qu'on voudrait faire des choses pour le Seigneur, comme pour se racheter, quoi. Et c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur, il nous demande aussi, il nous rappelle que la justification, elle est par la foi, mais que la sanctification est aussi par la foi. C'est ce qu'on voit le mercredi soir, et ça, c'est capital. Ça, c'est capital, qu'on puisse saisir ça. Il y a des chrétiens, ça fait 20 ans qu'ils sont au Seigneur, 30 ans qu'ils sont au Seigneur, et qui se battent toujours avec les mêmes péchés. Pourquoi? Parce qu'ils reviennent toujours à la croix pour le pardon de leurs péchés, mais jamais dans la résurrection pour avoir la délivrance du péché. Pourquoi la résurrection est importante? C'est pas juste parce que on a l'assurance qu'un jour, Christ va nous ramener de la mort à la vie, mais c'est à travers la résurrection que Jésus confirme la délivrance sur la mort, sur le péché, sur le diable et sur le monde. Le problème, c'est qu'on commet un péché, on vient à la croix, mais on n'a pas la délivrance. La délivrance, elle passe par la résurrection. Et la sanctification, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Autant la justification, le salut, il est par la foi, autant la sanctification, elle est aussi par la foi. Le problème, c'est qu'on vient le salut par la foi, mais la sanctification par les œuvres. Et là, on se fait ramasser à la petite cuillère parce que par les œuvres, par nos propres efforts d'être délivrés du péché, on en est incapable. Incapable d'être délivré du péché par nos propres forces. Mais celui qui a saisi qu'est-ce que c'est la sanctification, celui qui a saisi à quoi correspond la résurrection, c'est extraordinaire ce qui survient dans sa vie. Lorsqu'il a une tentation, c'est plus lui qui affronte la tentation, c'est Christ qui habite en lui. Il peut lui dire, écoute, t'as plus aucun pouvoir sur moi. Je suis mort. Et c'est ce que Paul explique dans Romains. C'est très important, ça. Paul, il dit, je suis mort au péché. J'ai été crucifié avec Christ et j'ai été ressuscité avec Christ. Moi, je suis mort au péché, donc le péché ne peut plus m'atteindre. Le problème, c'est qu'on écoute avec nos oreilles et on essaie d'y aller par nos propres forces et là, on tombe à chaque fois. Mais si, et c'est un exercice à développer, ça, à chaque semaine, à chaque jour. La tentation, elle vient. Je tiens à vous rappeler que la tentation, c'est pas un péché, hein. C'est succomber à la tentation qui est péché. La tentation, elle vient. On identifie que ça, c'est pas de Dieu. Et en Jésus-Christ, on est capable de dire, écoute, non. Non. Moi, ça peut plus m'atteindre puisque je suis mort. Tu vas atteindre l'ancien Jacques Hudon. Mais le nouveau Jacques Hudon, oui, tu vas atteindre l'ancien Jacques Hudon en qui le péché habitait. Mais le nouveau Jacques Hudon, c'est Christ qui habite en lui. Et Christ qui a été tenté en toutes choses et qui n'a pas péché, j'ai la capacité en Jésus-Christ de dire non à toute forme de tentation. Mais si j'essaie par mes propres forces, j'essaie de gagner mes galons et finalement, tôt ou tard, je finis par tomber, quoi. Je suis incapable de lutter contre la chair, incapable de lutter contre ma nature humaine. Et là, je tombe. Et il y a des chrétiens, ça fait 20, 30, 40 ans qu'ils ont pris avec le même péché. Ils sont à la même case. Parce qu'ils n'ont pas saisi la puissance qui réside dans la résurrection de Jésus-Christ. Ça, c'est fondamental pour votre vie chrétienne. Et il y a des gens, on en parle le mercredi soir, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont commencé à saisir ça et qu'ils sont délivrés de péchés qu'ils n'auraient même pas osé dire, quoi. Ça, c'est capital, c'est à partir de là que vous commencez à grandir. Et là, cette joie, cette paix, cette vie en abondance que Jésus promet, là, vous pouvez avoir cette joie-là. On est en train de voir Romains chapitre 7. Si Romains chapitre 7, ça correspond à la vie du chrétien, moi, je retourne dans le monde. Paul, il dit, j'essaie de faire ce que je fais ce que je ne suis pas capable de faire et je ne fais pas ce que je voudrais faire. Mais il parle avant sa conversion. Il est impossible que chapitre 7 et chapitre 8, ça corresponde à la même personne. C'est impossible, quoi. Paul, il dit, j'étais pharisien avant de connaître Jésus. Voici à quoi correspondait ma vie. Romains chapitre 7. De toutes mes forces, j'essayais de plaire à Dieu, je n'étais pas capable. Plus j'essayais, plus je tombais. Maintenant, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit, Romains chapitre 8? Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, c'est-à-dire m'a libéré de la loi du péché. Avant de connaître Christ, je suis sous la loi du péché, je suis incapable, je suis condamné. Et là, il dit, maintenant, je vis sous la loi de l'esprit, je suis converti, je suis né de nouveau. L'ancien Jacques Hudon, il est mort. Maintenant, il y en a un nouveau. Et c'est Christ qui habite en lui. Et là, je peux dire maintenant, je puis tout par celui qui me fortifie. Pas je puis tout par moi, par celui qui me fortifie. Amen. C'est un exercice à développer, hein. C'est simplement un exercice à développer, quoi. Le problème, c'est que dans nos églises, je dirais que Romains chapitre 7, l'église primitive, jusqu'à Augustin, Saint-Augustin, a enseigné que ça, le chapitre 7 de Romains, ça correspondait à la personne non convertie. Mais il y a eu un débat avec Pelage, là, qui refusait le péché d'Adam. Et Saint-Augustin a saisi Romains 7 pour dire que ça, c'était le combat du chrétien. Hey, ça n'a pas de sens, quoi. Et il y a beaucoup de gens dans l'Église qui ont enchaîné Romains chapitre 7. Eh bien, c'est le combat du chrétien au quotidien. Et ça n'a pas d'allure, parce que le combat du chrétien au quotidien, si ça, c'est le chrétien, ben ça correspond au combat de tout le monde, quoi, même ceux qui ne sont pas convertis. Alors, c'est pas normal qu'on accepte juste Jésus-Christ, puis que notre vie ne change pas, quoi. Que la seule chose qui va changer dans notre tête, c'est que ben, si je meurs demain matin, je m'en vais au ciel, mais que je vais suer, transpirer dans le péché pendant tout le temps que je vais rester sur la terre. Ça n'a aucun sens, quoi. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui faisait la puissance des chrétiens de l'Église primitive? Qu'est-ce qui faisait la puissance des gens par qui Dieu a fait des réveils? C'est qu'ils avaient compris la puissance qui réside dans la résurrection. Frères et sœurs, vous êtes morts en Christ, vous êtes ressuscités en Christ. Paul dit, vous êtes morts au péché. Morts au péché. Si je n'avais que des cercueils ici ce matin avec des cadavres dedans, peu importe ce que je vous dirais, ça vous ne chatouillerait même pas le bout des orteils, ça vous ne dérangerait pas. Je ne serais pas capable d'en faire pleurer un ici ce matin, je ne serais pas capable d'en faire rire un ici ce matin, parce que les cadavres, ils sont morts et ça ne réagit pas. Ça ne réagit pas à rien. Ça ne subit l'influence de rien. On est mort. Et c'est la même chose spirituellement parlant. On est mort au péché. On ne peut plus réagir au péché. Le problème, c'est que tant et aussi longtemps qu'on comprend pas ça, ben on y va par nos propres forces. Et là, on a hâte que le Seigneur vienne nous chercher parce qu'on n'en peut plus de lutter. Non, c'est le Seigneur en nous qui lutte. C'est le Seigneur en nous qui lutte. Ça, c'est ce qu'on avait, c'est ce qu'on a maintenant qu'on n'avait pas avant. Et ça fait partie de la nouvelle naissance. Si on n'est pas né de nouveau, on lutte par nos propres forces. On baigne dans les mêmes péchés qu'avant. Et plus on lutte, et plus on commet les mêmes péchés qu'avant. Mais si on est passé par une nouvelle naissance, ça veut dire quoi? Jean chapitre 1, verset 13, l'apôtre nous dit qu'on a reçu une nouvelle vie de la part de Dieu. Et cette nouvelle vie-là nous permet de dire non au péché. De dire non au péché. Et là, la première épître de Jean, elle tient la route. C'est pour ça qu'on lit Romains 7 et d'autres passages pour nous préparer à entrer dans l'étude de 1, première épître de Jean. Hey, c'est grave quand Jean dit, celui qui pêche n'a point connu Dieu. C'est dur, ça, entendre. Hey, c'est culpabilisant, quoi. Vous voulez pas la lire, la première épître de Jean. Mais quand vous lisez le contexte de Romains 7, quand vous comprenez le principe de la nouvelle naissance, que Dieu a fait un miracle dans vos vies, bien, vous comprenez que si vous péchez, c'est pas de la faute du diable, c'est de votre faute, quoi. Parce que si vous êtes né de nouveau, à chaque fois que vous commettez un péché, c'est parce que vous avez dit oui. C'est pas le diable qui vous a fait tomber, vous avez dit oui à la tentation. Et là, vous avez juste à dire « me, myself and I », ça c'est de ma faute à moi. J'ai pas à accuser personne, quoi. Et ça va vous éviter dans l'avenir d'aller voir des gens et dire, quand on rencontre des gens, des chrétiens, on leur dit « comment ça va dans ta vie? » Ah, diable m'a couru. Hey, le diable m'a couru. Hey, il y a le dos large, le diable, hein? Le diable m'a couru. Non, t'as succombé volontairement au péché. T'as succombé. T'es né de nouveau, t'as succombé. Avant, j'aurais compris, quoi. T'étais esclave du péché. C'est ce que Paul dit dans Romains. Mais maintenant, tu es libre. Libre. Chapitre 8. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant. À cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et c'est ce que Dieu veut nous donner à travers la résurrection de Jésus-Christ. Une vie en abondance et la vie éternelle et la paix, la joie du salut. Dirais-je, je peux pas croire que moi avant j'étais comme ça. Là, on peut le dire. On a compris la puissance de la résurrection dans nos vies. Là, on peut dire, je peux pas croire que moi j'ai baigné dans ces péchés-là, dans cette crasse-là, moi, avant de rencontrer le Seigneur. Je peux pas croire que l'ancien moi, c'était ça, quoi. Et je veux même pas énumérer ce qu'il faisait. C'est horrible. C'est sale. C'est dégoûtant. Je suis capable de le dire et je suis capable de voir le péché comme Dieu le voit. Parce que je suis né de nouveau. Parce que je suis passé par une repentance. Et parce que je suis passé par la conversion. Hey, c'est pas juste lève ta main et accepte Jésus. La repentance. Ce qu'on prêche plus, quoi. Et il n'y a pas de nouvelle naissance sans repentance. Parce que la repentance, elle est essentielle au salut. Elle est essentielle au salut. Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. À la fois, Christ, par son sang, efface nos péchés, mais il y a une condition. Tu dois te repentir et te convertir pour que tes péchés soient effacés. C'est moi qui l'invente. Actes chapitre 3, verset 19. Et dans le mercredi soir, et pourquoi j'ai à cœur de vous parler de la prière ce matin? Parce que le mercredi soir, on a réalisé qu'un des gros problèmes dans l'Église, c'est la prière. Vous savez, frères et sœurs, les catholiques, je parle des catholiques, je veux dire, quand j'étais catholique, moi j'ai appris mon chapelet. Hein? Je vous salue Marie, et notre Père, après chaque disque, je vous salue Marie, et ainsi de suite. Hein? Moi j'ai grainé le chapelet. Hein? Quand j'étais jeune, bon, j'ai grainé le chapelet, j'avais des frères qui m'enseignaient à l'école primaire, je suis obligé de dire le chapelet une fois par semaine, quoi. Et aller à la messe une fois par semaine. Toute l'école allait à l'église une fois par semaine. C'est ce que Jésus appelle, ça, ne faites pas comme les païens, des prières par cœur. Mes frères et sœurs, je dois vous avouer honnêtement, dans l'église évangélique, on a commencé nous aussi à faire des prières par cœur. Vous savez, c'est quoi se dire des prières par cœur? C'est de prononcer des paroles avec notre bouche, et finalement, ils ne croient pas vraiment. On récite des prières par routine. Moi, je ne m'aurais demandé ce que je disais dans mon « Je vous salue Marie », je n'aurais pas été capable de vous le dire. Ni dans les prières que l'Église m'avait appris par cœur. Et ce matin, j'aimerais simplement vous apporter quelques témoignages et certains passages dans les Écritures où le Seigneur nous montre qu'est-ce que c'est de vraiment prier. De vraiment prier. L'Église, aujourd'hui, a besoin d'apprendre à prier. A besoin d'apprendre à intercéder. Frères et sœurs, pendant que les disciples dormaient, Jésus se retirait pour aller prier comme c'était son habitude. Si Jésus avait besoin de prier sans cesse pour voir la main de Dieu dans sa vie et bénir son ministère, si Jésus avait besoin de prier pour affronter chaque crise, ne pensez-vous pas que nous aussi, nous avons besoin de prier dans chaque crise que nous traversons? Ça, c'est ma première question ce matin. Le Seigneur, il nous a dit, priez sans cesse, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Dans Luc, hein? Afin de ne pas tomber dans la tentation. C'est pas de tomber dans le péché, mais cette tentation-là, elle est importante. Ça va même jusqu'à tenter d'abandonner le Seigneur. C'est ce que Paul dit dans 1 Timothée, quoi. Sache que dans les derniers temps, certains abandonneront le Seigneur. Et Jésus savait, quoi. La prière, ça nous reste, on reste connecté, on reste en contact avec Dieu, quoi. Et dans la prière, on donne autorité à Dieu d'agir dans ma vie, dans la vie des autres. Parler de la vie de prière, c'est pas quelque chose de très facile, c'est pas quelque chose d'évident. Tout d'abord parce que vous avez entendu déjà dans le passé de nombreux messages et lu beaucoup de livres sur le sujet, et que nous connaissons l'essentiel de notre responsabilité dans ce domaine. Et pourtant, c'est un des domaines où nous avons le plus de difficultés à mettre en pratique dans notre vie. Et ensuite, je suis conscient de mes propres lacunes et de mon besoin de grandir dans cet aspect de ma vie chrétienne. Quelqu'un a dit, « Nul n'est plus grand que sa vie de prière. » Si nous voulons évaluer correctement ce que nous sommes devant Dieu, il ne faut pas regarder notre manière de prêcher à la bonne opinion que les autres se font de nous, mais plutôt jeter un regard honnête et objectif sur notre vie de prière, ce qui nous donnera une bonne idée de ce que nous sommes réellement devant Dieu. Ma vie de prière est le baromètre de ma vraie spiritualité. Ma vie de prière, elle est le baromètre, elle m'indique quel est le genre de relation que moi j'ai avec Dieu. Vous dites amen à ça ce matin? Oui. La Bible nous exhorte à prier, elle nous enseigne même à en faire une priorité. Maintenant, je ne condamnerai pas personne, je ne vous demanderai pas d'élever la main, savoir combien de minutes par jour, combien d'heures par jour vous priez ou par semaine, le nombre de fois. Je suis conscient d'une chose, notre pire ennemi dans le monde occidental, c'est notre confort. On a tellement tout, on est tellement bien qu'on n'a pas besoin de prier. On a la mutuelle quand on est malade. Pas besoin de prier Dieu pour nous guérir. On a la mutuelle, on a les médecins. On a des acquis sociaux qui sont en train de disparaître un par un, mais on a quand même des acquis sociaux. Je perds mon travail demain matin, il reste encore du chômage. Je perds mon chômage, il reste quand même l'aide sociale. Et ainsi de suite. Les œuvres de bienfaisance, puis la main secourable, et ainsi de suite. Mais dans les pays, ils n'ont aucune protection, où il n'y a pas d'aide sociale, où il n'y a pas de chômage, où il n'y a pas de mutuelle. Je peux vous dire une chose, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de se mettre à genoux et de prier. Le pasteur Hénoux, j'ai rencontré au Québec, qui nous a formés dans les camps d'évangélisation pour les enfants, a fait 20 ans en Afrique. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, j'ai jamais vu un miracle encore au Québec. Il dit, j'ai jamais encore vu Dieu faire un miracle au Québec. Mais il dit, par contre, j'étais 20 ans en Afrique et je voyais Dieu faire des miracles régulièrement. Pourquoi? Il m'a dit, parce qu'en Afrique, on n'avait rien et on ne devait pas autre chose à faire que de prier Dieu pour qu'il nous donne ce qu'on avait besoin. Mais on a tout ici. Et pourtant, le combat spirituel, il est dans la prière. Il est là. Sans la prière, on ne peut rien faire. Vous imaginez Jésus qui était fils de Dieu, Jésus qui était Dieu fait homme, dans son 100% humanité. Il savait, il avait réalisé qu'il devait prier, venir confier tout son ministère entre les mains du Père, pour voir la main puissante et bénissante de son Père agir dans son ministère. Ah. Oui. Paul disait à Timothée, « J'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications et des actions de grâce. » Jésus n'a pas dit à ses disciples, « Si un jour vous décidez de prier, faites ceci, faites cela. » Au contraire, il leur a dit, « Quand vous priez, c'est-à-dire lorsque vous priez, Jésus sous-entend que nous avons une vie de prière régulière. » Avoir accès à Dieu, frères et sœurs, c'est un de nos privilèges. La délivrance du péché, c'est le privilège de tout chrétien. Et avoir accès à Dieu, c'est le privilège de tout chrétien. N'importe quand, n'importe où, Dieu est disponible, il est accessible. Vous êtes en pyjama, vous êtes en petite culotte, vous êtes dans votre douche, n'importe où vous êtes, Dieu est disponible. Heureusement qu'il ne vous regarde pas et dit « Non, non, change-toi ». Non, écoute, ça va être de telle heure à telle heure, tu as rendez-vous avec moi. En tout temps, il est disponible. Extraordinaire. Et c'est le privilège de ceux qui sont nés de nouveau. De dire, Seigneur, ben oui, c'est encore moi. Ben oui. Et là, on prend un temps avec. Ouais, la plus belle prière dans les Écritures, c'est celle d'Abraham avec Dieu dans Genèse chapitre 18. Ah! Ça, c'est la plus belle prière. Ça, c'est vraiment la démonstration pour moi, là, de ce que doit être une prière avec Dieu, quoi. Je prie, je lui demande des choses et j'attends qu'il me réponde, quoi. J'attends qu'il me réponde. Un jour, un homme voulait rencontrer le président des États-Unis. Arrivé à la Maison-Blanche, un garde lui demanda s'il avait laissé passer ou un rendez-vous. Mais il n'avait rien. Alors, on lui refusa tout simplement l'entrée. Après le changement de garde, il recommença la même démarche, mais en vain. Découragé et abattu, il rencontra un petit garçon qui, voyant sa tristesse, lui proposa de l'aider. Mais l'homme refusa, prétextant que l'enfant n'était pas capable de comprendre son problème. L'enfant insista et, enfin, l'homme lui expliqua son désir de voir le président. Alors le garçonnet le prit par la main et l'amena à l'intérieur de la Maison Blanche. Aucun des gardes ne réagit. Tous deux arrivèrent à la porte du président. Le garçon l'ouvrit et dit, « Papa, il y a ce monsieur qui voudrait te parler. » C'est pareil pour nous, frères et sœurs. Jésus nous prend par la main. C'est lui qui nous a ouvert l'accès au ciel pour que nous puissions avoir librement ce partage avec Dieu. Là où j'ai le plus manqué dans mes responsabilités à l'égard de mes fidèles, disait un pasteur, ce n'est pas dans mon travail pastoral, ni dans la prédication, mais dans la prière. Et c'est certainement la confession de beaucoup d'entre nous engagés dans le ministère. Il est plus facile d'avoir toutes sortes d'activités plutôt que de prendre du temps pour prier. Dans ce sens, Ken Wright disait, « Souvent, nous avons des excuses pour ne pas prier. Je n'ai pas le temps, je suis trop actif, j'ai trop de travail. » Mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas parce que nous avons trop d'activités que nous ne prions pas. Mais c'est parce que nous n'avons pas une vie de prière régulière que nous essayons de compenser par un excès d'activité. C'est le manque de prière qui conduit à l'activisme et non pas l'activisme qui conduit au manque de prière. À ce sujet, j'ai trouvé une preuve indéniable. Par définition, lorsque nous partons en vacances, nous avons du temps puisque nos activités, nos obligations sont suspendues. Est-ce que nous prions plus lorsque nous courons à droite et à gauche? Est-ce que nous courons plus que quand, durant l'année, nous courons à droite et à gauche lorsque nous sommes en vacances? C'est souvent durant cette période, durant la période des vacances, qu'on trouve le moins de temps pour prier. Luther, quant à lui, disait, « J'ai tellement de travail aujourd'hui que si je ne veux tout accomplir, il faut que je passe au moins 3 heures dans la prière. » Charles Spurgeon se convertit à l'âge de 16 ans et il commença à prêcher à Londres à l'âge de 19 ans. À l'âge de 27 ans, il devient le pasteur de l'église du Tabernacle où il prêchait 2 fois de suite le dimanche devant une assistance de 6 000 personnes et 1 fois le jeudi soir. Comment pouvait-il faire? Il s'attendait à Dieu. Il se retrouvait seul avec Dieu. Il sondait les Écritures et il priait. Comment John Wesley faisait pour prêcher 5 fois par jour? Il n'a pas le temps de préparer ses messages. Mais il avait une vie de prière exemplaire. Et sur son cheval, assis sur son cheval, quittant une église pour aller vers une autre, tout ce qu'il faisait, son cheval connaissait le chemin, il lisait les Écritures et méditait les Écritures. Et là, il arrivait dans l'autre église et il prêchait ce qu'il avait médité pendant 25 kilomètres. John Wesley prêchait entre 3 et 5 fois par jour. Il l'a fait jusqu'à l'âge de 89 ans. Il connaissait son Seigneur le connaissait. Et il prêchait et il touchait les cœurs. Dieu a formé ses meilleurs ouvriers dans des grands moments de solitude. Savez-vous quel est le secret de la prière? Matthieu chapitre 6, verset 6, ceux qui ont leur Bible. Est-ce qu'Ernest Lederski est ici? Est-ce que tu peux diminuer la température un peu? Je suis en train de fondre en avant. Le secret de la prière, c'est celle qui se fait en secret. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous savez pourquoi, frères et sœurs? Parce que dans le secret de votre chambre, vous ne pouvez pas montrer aux gens votre esprit de prière lorsque la porte est fermée. Et quand vous êtes seul dans une pièce, bien, vous ne pouvez pas manifester vos dons spirituels à personne. Vous ne pouvez pas impressionner les autres. Et surtout pas, vous ne pouvez pas impressionner Dieu. Au chapitre 1 du premier livre de Samuel, tournez avec moi dans 1 Samuel, chapitre 1. Premier livre de Samuel, dans l'Ancien Testament. Très, très loin au tout début. Juste après les 5 livres historiques. Dans les versets 1 à 15, l'auteur nous raconte le voyage annuel que faisait Elkanah et sa femme Anne à Silo, pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Et durant cette période, Anne avait beaucoup de peine parce qu'elle n'était pas capable de donner un enfant à son mari. Et ce passage des Écritures nous donne une assez bonne description du temps qu'elle passait en prière, parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Verset 10, il est écrit que non seulement elle pleurait, mais verset 15, mais qu'elle souffrait en son cœur et qu'elle répandait son âme devant l'Éternel. C'était l'excès de sa douleur et de son chagrin qui la faisait parler jusqu'à présent. Et on a ici une bonne description sur la condition dans laquelle se trouvait cette femme. Mais ce qui ressort par-dessus tout, c'est que Anne était une femme de prière. Au verset 20, il est écrit qu'elle a reçu sa récompense. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Je l'ai déjà dit, certains n'aiment pas quand je le dis cela, mais Dieu ne répond pas à la prière. Dieu répond à la prière de celui qui est désespéré. Les meilleures réponses à mes prières avec Dieu, c'est quand j'étais en larmes, c'est quand j'avais tout essayé et que là j'étais désespéré et que je priais, Dieu répondait à mes prières. Frères et sœurs, vous pouvez prier pour le salut de vos enfants. Ils peuvent être sur une liste de prières. Mais est-ce que vous avez vraiment cette compassion? Est-ce que vous avez vraiment cet état d'âme qui animait Anne et d'autres personnes dans les évangiles, dans les Écritures, qui pour prier? On peut avoir une liste de prières et dire, Seigneur, je te demande de sauver un tel, je te demande de sauver un tel, je te demande de sauver un tel. Mais est-ce qu'on est vraiment, comment je dirais ça? Est-ce qu'on a vraiment une douleur et un chagrin dans notre cœur de savoir que cette personne-là, si elle ne prend pas cette décision pour Jésus-Christ, elle s'en va en enfer? Est-ce qu'on voit ces choses-là? Est-ce qu'on voit ces choses-là quand on prie pour ceux qui ne sont pas sauvés? Est-ce que d'abord, avant, on est capable de dire, Seigneur, en louange, Seigneur, merci pour ton salut que moi, je ne mérite pas, Seigneur. Merci de m'avoir délivré à travers la résurrection de tous mes péchés, Seigneur. Et tu vois mon fils. Seigneur, tu vois ma fille, tu vois mon oncle, tu vois ma tante, Seigneur, et eux, ils ne sont pas sauvés. Et Seigneur, moi, je ne mérite pas plus qu'eux, mais j'ai goûté, j'ai bénéficié à ta grâce, Seigneur. Et aujourd'hui, si j'ai une espérance vivante, si je peux m'approcher de ton trône de grâce pour recevoir le pardon, c'est parce que, Seigneur, j'ai fait cette rencontre à la croix de la personne de Jésus-Christ. Et Seigneur, je veux te remercier d'avoir placé ce chrétien, cette chrétienne sur mon chemin, qui a osé ouvrir la bouche pour me parler de la puissance du sang de Jésus. Merci d'avoir effacé mes péchés. Merci d'avoir touché mon cœur, Seigneur. Merci parce que j'étais dans des blessures, blessures de la société, j'étais blessé. Famille dysfonctionnelle, des péchés de toutes sortes, on n'est pas obligé d'énumérer ici. Et Seigneur, tu m'as délivré. Et aujourd'hui, Seigneur, je voudrais que pour mon fils, que pour ma fille, que pour ma tante, que pour mon oncle, que pour mon voisin, eh bien, ils puissent recevoir la même délivrance que tu m'as donnée, le même salut que j'ai reçu. Oui. Votre vie de prière indique jusqu'à quel point vous comptez sur votre propre capacité. Plus vous avez confiance en vous-même et moins vous allez prier. Moins vous avez confiance en vous et plus vous allez prier. Il est écrit dans la Bible que Dieu a choisi, et notre frère Jean-François l'a cité tantôt dans 1 Corinthiens, a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui n'en sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. 1 Corinthiens 1, 28. Nous avons besoin aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ d'un groupe d'individus qui n'ont pas une très haute opinion d'eux-mêmes pour prier. Et lorsque c'est le cas, ils ne peuvent faire autrement que de porter leurs yeux sur Jésus-Christ crucifié et ressuscité, de qui ils dépendent pour leur salut et pour leur progression spirituelle. Psaume 86, 1. Rapidement. En lisant différents passages dans les psaumes, j'ai appris une chose, c'est que la prière, c'est la langue du pauvre. C'est intéressant, hein? C'est la langue du pauvre. Et c'est encore le roi David qui le dit dans le psaume 86, verset 1. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et pauvre. Ce matin, est-ce que tu es malheureux et pauvre? Eh bien, tu peux te présenter devant le Seigneur, il va t'écouter. C'est ce que la parole dit ici. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi. Est-ce que ton cœur est pur ce matin aussi? Le Seigneur, c'est pas un bouffon, quoi, hein? Le Seigneur, il est dans nos cœurs. Si ton cœur est pas pur, tu t'approches pas, hein? Jean chapitre 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur, mais celui qui l'honore et fait sa volonté, Dieu l'exauce. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Bon, il sait ce qu'il fait, il est malheureux et pauvre, mais il dit, Éternel, prête l'oreille, exauce-moi. Psaume 86, 1. Dans le psaume 34, verset 6, juste un pas en arrière. Et là, il parle de lui. Il a écrit, « Voilà un pauvre qui crie au secours. » Un pauvre en esprit, quoi. « Voilà un pauvre qui crie et a crié au Seigneur. » Quelqu'un qui n'a pas une trop haute opinion de lui-même, quoi. Et là, qu'est-ce qu'il dit? « Le secours, le Seigneur l'a entendu, il l'a sauvé de tout ce qui l'angoissait. » Êtes-vous angoissé ce matin? Êtes-vous angoissé ce matin? Avez-vous une grosse opinion de vous-même? Dieu ne répondra pas à vos prières. Parce que celui qui a une petite opinion de lui-même, c'est celui qui a un cœur humilié. C'est celui qui est capable de s'humilier, qui est capable de se présenter devant le Seigneur. Et qui est capable de dire, Seigneur, moi je suis malheureux, je suis pauvre un matin, je suis esclave de tel péché, quoi. Ah, ça peut être la boisson, ça peut être la drogue, ça peut être n'importe quel péché, hein. Il y en a une liste, quoi. Il y en a une liste de péchés, quoi. On a le choix pour pécher, quoi. Mais si ton cœur ce matin est angoissé, si tu réalises jusqu'à quel point tu es malheureux, jusqu'à quel point tu es perdu sans Jésus-Christ, bien, présente-toi devant lui, tel que tu es. Il dit, Seigneur, moi, j'ai besoin de ton aide ce matin. J'ai besoin de ton aide, Seigneur, et j'ai besoin de ta délivrance. Et je comprends qu'à travers la croix, j'ai le pardon de mes péchés. Alors, je me repens, Seigneur, je reconnais que j'ai fait des choses qui sont mal, qui sont contraires à ta loi. Ta loi, elle est pure, Seigneur, tu es saint. Mais en même temps, Seigneur, je sais que tu m'aimes et que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Et Seigneur, je t'apporte mon esclavage ce matin. Et je te demande de me délivrer à travers la résurrection de Jésus, Seigneur. Pour que je puisse vraiment baigner dans cette joie, dans cette paix que tu promets à tous ceux qui s'approchent de toi. L'apôtre Paul avait de grandes capacités intellectuelles et spirituelles, et pourtant il dit qu'il est conscient que quand il est faible, qu'il est fort. Il était constamment en train de se rappeler à lui-même et aux autres qu'il n'était rien. Frères et sœurs, vous n'êtes rien. Amen. Vous n'êtes rien. Ça correspond pas à ce que la psychologie et tous les hicks nous rendent sans haute estime de soi-même, et vous n'êtes rien, quoi. Mais vous êtes tout en Jésus-Christ. Ça, c'est extraordinaire, quoi. Ça, c'est magnifique, ça. On n'est rien dans le monde, frères et sœurs. On meurt, on crève, on s'en va dans un trou, dans un cercueil, on pourrit, on se décompose, on disparaît, c'est terminé. Ça, on n'est rien dans le monde. Mais on est tout en Jésus-Christ, parce que même si notre corps se décompose, gloire soit rendue à Dieu, parce que le jour de la résurrection, il va vous ramener aussi de la mort à la vie. Et vous êtes tout en Jésus-Christ. Donc, vous n'êtes pas des minables, vous n'êtes pas des moins que rien. Pour Dieu, vous êtes des gens vous êtes précieux aux yeux de Dieu, quoi. Vous êtes précieux. Écoutez, votre salut, Dieu l'a pas acheté avec des billets, avec des euros. Hey, il a donné sa vie, quoi. C'est incroyable quand on pense à ça, quoi. Hey, vous donneriez votre vie, vous, faire sortir un pédophile de prison? Vous donneriez votre vie? Pas pour qu'il y ait une libération conditionnelle. Faut qu'il soit complètement pardonné, puis personne ne pense à son péché. Vous donneriez votre vie? Vous pensez que les petits péchés que vous avez faits, ça vaut plus que la pédophilie? Ça vaut moins? C'est moins grave? Essayez d'évaluer le degré de péché que vous aviez par rapport à un pédophile. Pour Dieu, ils sont tous pareils, les péchés. Plus cruel, la pédophilie. Vous êtes aussi condamnable que le pédophile. Donneriez-vous votre vie pour libérer un pédophile de prison? Alors, aussi sale que vous étiez, aussi sale que j'étais, Dieu a décidé de payer le prix pour vous sortir de votre prison de péché, pour vous faire entrer dans la gloire de Dieu, pour vous faire entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu était prêt à payer pour vous. Ça, c'est ce que Dieu était prêt à payer pour moi. Ça, c'est le message de l'Évangile. Viens pas à l'Église pour se sentir bien. Si vous venez à l'Église vous sentir bien, je vais vous donner une liste d'œuvres sociales. Vous allez être encore mieux, vous allez vous sentir encore mieux que dans l'Église. L'Église n'est pas faite pour que les gens se sentent bien. Ça, c'est une hérésie chrétienne. Ça, c'est l'Église apostate. L'Église est ici pour transformer vos vies. Dieu est ici pour heurter dans vos cœurs, vous remettre en question dimanche après dimanche, parce qu'il sait comment, rapidement, On est des auditeurs oubliés. Rapidement, on retourne sur nos sentiers. On est porté à aller là où on était. J'ai assisté un jour à un séminaire donné par un grand serviteur de Dieu. Et il nous a parlé d'une expérience qu'il a vécue alors qu'il était missionnaire en Équateur. Il était là depuis peu de temps lorsqu'il tomba gravement malade. Les gens étaient tellement convaincus qu'il n'en avait plus pour quelques heures à vivre qu'ils avaient déjà creusé un trou pour l'enterrer. On pouvait voir la transpiration couler sur son front et il râlait comme quelqu'un le fait juste avant de rendre l'âme. Et soudainement, à 2 heures du matin, il s'assit droit dans son lit, devant tous ceux qui étaient autour, et il dit à sa femme, « Apporte-moi mes vêtements. » Personne ne savait ce qui s'était passé, quoi. Et des années plus tard, alors qu'il donnait une conférence sur un autre continent, il racontait à nouveau ce qui lui était arrivé en Équateur des années auparavant. Et à la fin de la réunion, il y a une petite vieille dame qui tenait dans son main un livre dont le coin des pages était usé et abîmé, et qui s'approche de lui, qui lui demande de lui donner la date où il avait été gravement malade en Équateur. Lorsqu'il lui répondit, elle ouvrit son livre à la date mentionnée par le missionnaire et son visage tout ridé s'illumina. « Ah, voilà, dit-elle. Ah, voilà, vous voyez ce qui est écrit ici? Telle date, à 2 heures du matin, Dieu a dit, lève-toi et prie, car le diable essaye de faire mourir Raymond Edman en Équateur. Et il s'était levé et avait prié pour lui. Il avait été guéri. » Est-ce que vous croyez ça, frère et sœur, ce matin? Est-ce que vous pensez que c'est un pentecôtiste qui écrit ça, là? Ouais, la guérison, c'est permis aux baptistes, hein? Dieu parle pas juste aux pentecôtistes, hein? Dieu parle aussi aux baptistes. J'oserais même dire plus aux baptistes. Parce que Dieu veut faire encore beaucoup plus de choses à travers les baptistes. Vous racontez ça à quelqu'un, il va te dire, peut-être un siphonné, quelqu'un qui vit rien avec Dieu va te dire, il a besoin de soins, ce gars-là, quoi. C'est échappé de Notre-Dame des Anges, pas possible, quoi. Cette femme-là, elle a un problème, quoi. Le pasteur Duncan Campbell partageait un jour une expérience qu'il avait vécue lorsqu'il exerçait son ministère en Écosse. « Je ne pouvais pas prêcher, dit-il, je n'arrivais pas à communiquer avec Dieu, c'était comme si le ciel était fermé. J'avais l'impression que le plafond au-dessus de ma tête était en acier. » Il cessa tout de suite de prêcher et il demanda à un jeune homme du nom de John Cameron de prier. Le garçon se leva et dit, « À quoi sert-il de prier si nous ne sommes pas en règle avec Dieu? » Ah, frère, à quoi sert-il de prier? Nous ne sommes pas en règle avec Dieu. Ouais. À quoi sert-il de prier si nous ne sommes pas en règle avec Dieu? Ne perdons pas notre temps à prier si nous ne sommes pas en règle avec Dieu. Psaume 24, versets 3 et 4. Voilà ce que le jeune garçon a cité. Le psaume 24, versets 3 et 4. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Ceux qui ont gardé mains nettes et cœur pur. Frères et sœurs, ce matin, vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu si vos mains ne sont pas pures. Cela signifie que votre relation avec votre prochain est pure et que votre cœur est pur vis-à-vis de Dieu. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains pures et le cœur pur, est-il écrit. Après que le jeune homme eut cité le psaume 24, il commença à prier. Et il pria pendant 45 minutes. Quand il eut fini de prier, c'est comme si Dieu avait poussé sur le commutateur dans le ciel. L'Esprit de Dieu descendit sur cette église. L'Esprit de Dieu descendit sur cette communauté. L'Esprit de Dieu descendit dans les dancing de l'église, de la ville et dans les débits de boissons qui se trouvaient à l'autre bout de la ville. Et un réveil survint suite à la prière de ce jeune garçon. Frères et sœurs, mardi, le 13 août 1727, est une date dans l'histoire que j'aime beaucoup. Ce jour-là, un petit groupe de personnes en Moravie s'était regroupé pour tenir une réunion de prière. Soudainement, à 11 heures, le Saint-Esprit s'est manifesté. Savez-vous ce qui s'est passé? La réunion de prière qui avait débuté à 11 heures ce jour-là. Cette réunion de prière qui avait débuté à 11 heures ce jour-là a duré 100 ans. C'est vrai. Il y a toujours eu dans cette salle de prière des gens pour prier pendant 100 ans. C'est la prière la plus longue que je connaisse où des hommes et des femmes ont prié. Même des enfants de 6 et 7 ans combattaient dans la prière pour un réveil dans des pays dont ils n'étaient même pas capables, pour des pays dont ils n'étaient même pas capables d'épeler leur nom. Ce sont les frères Mohave. Lisez le temps de prière dans ces 100 ans, 1727 jusqu'à 1827. Dans toute l'histoire de l'Église, il n'est jamais sorti d'aussi grands hommes de Dieu que durant ces 100 ans. John Wesley, Robert McCheyenne, tous ces grands hommes de Dieu. Charles Finney, des grands hommes de Dieu. Ils sont sortis suite à ces réunions de prière pendant 100 ans. Je peux vous donner une seule raison pourquoi il n'y a pas de réveil en Belgique, et je vais terminer avec ça. C'est parce que nous sommes satisfaits de la vie de l'Église que nous avons. Nous aspirons à voir Dieu faire des miracles. Nous organisons de grandes campagnes d'évangélisation. Nous espérons recevoir des bénédictions. Mais nous oublions que Dieu doit être glorifié en toutes choses. Vous voyez des écriteaux maintenant pour des campagnes d'évangélisation. Un évangéliste de renommée internationale. Tu vois la renommée à Dieu, tu peux pas t'empêcher, tu peux pas penser que ce sont des bénédictions, quoi. On nous dit venir, si c'était telle rencontre d'évangélisation, on va avoir une grosse pointure. Hey, la grosse pointure. Elle est là, la grosse pointure. Elle est là. Hey. On avait fait un écriteau comme ça pour Moorhead. Il a dit, arrachez-moi tous les écriteaux dans la ville, sinon Dieu ne bénira pas. Je ne peux voiler la gloire à Dieu, enlever tout ça. Marquez même pas mon nom. Charles Finney n'avait pas besoin d'écrire des pancartes partout dans la ville, ni faire d'annonces dans les journaux. Il priait. Sans que les gens le sachent, les gens venaient à l'église. Les perdus, pas les chrétiens, les perdus. Charles Finney ne s'est jamais considéré comme une grosse pointure, ni John Wesley. Mais comme de misérables pécheurs qui ont goûté à la grâce de Dieu. Et que si Dieu devait changer d'idée, tout ce qu'il méritait, c'était l'enfer. Ça, c'est des vrais hommes de Dieu. Voilà pourquoi vous pouvez louer le Seigneur à chaque jour. Seigneur, merci, tu ne me traites pas comme je le mérite. Merci, Seigneur, que tu ne me traites pas comme je le mérite. Merci, merci. Merci parce que tu es fidèle et je sais que tu ne changeras jamais d'idée. Tu me promets dans le ciel et je sais que tu ne changeras jamais d'idée, Seigneur. Ça, c'est des grands hommes de Dieu. La grande pointure, elle est là. Et celui qui a une renommée internationale, il y en a juste un, c'est lui. C'est lui qui peut changer les cœurs, peu importe la couleur de la peau, peu importe la langue qu'on parle, c'est lui. Ouais. Dans le livre des Nombres, au chapitre 11, Moïse dit à Dieu, « Tu as mis sur moi une charge que je ne peux porter. Fais quelque chose ou tue-moi. » C'est la prière de Moïse. « Fais quelque chose ou tue-moi. » Frères et sœurs, aimez-vous suffisamment la Belgique pour dire, « Seigneur, envoie-moi un réveil ou tue-moi. » John Knox disait, « Seigneur, donne-moi l'Écosse, ou je meurs. » Pas juste la bouche qui est impliquée dans la prière, hein? L'esprit, le cœur. Oui. Notre cœur saigne comme celui du Seigneur a saigné quand il a vu cette foule à Jérusalem qui était perdue. Dans l'Ancien Testament, c'est rare, Dieu est esprit. Hein? Essayez de composer avec ça. Trois passages dans l'Ancien Testament, entre autres dans Jérémie, qui nous dit que Dieu pleure. De voir la condition du monde dans laquelle on est. Dieu pleure. Est-ce que vous pensez que Dieu ne pleure pas encore aujourd'hui de voir la situation du monde aujourd'hui, particulièrement la Belgique, capitale de l'Europe? Les gens disent, je suis rempli du Saint-Esprit. Si la venue du Saint-Esprit n'a pas révolutionné votre vie de prière, vous devriez vérifier certaines choses dans votre vie. Je ne suis pas certain que vous avez ce que vous pensez avoir. Nous entendons souvent dire que la prière change les choses. Non, la prière ne change pas les choses. La prière change les gens et ensuite les choses changent dans la vie des gens. Nous avons besoin d'avoir la même attitude que Anne. C'était une femme de prière. Elle versait des larmes. Elle souffrait en son cœur. Elle avait un fardeau. C'est-à-dire qu'elle répandait son âme devant l'Éternel. Elle a jeûné, elle a prié. Verset 16, c'est l'excès de sa douleur et de son chagrin qui la faisait parler jusqu'à présent. Frère, c'est ça. Le réveil, et je termine avec ça, le réveil, ça commence quand il y en a un dans l'Église qui ose confesser un péché. Ouais. Les réveils ont toujours commencé par ça. Confessez vos péchés les uns les autres. Jacques. Ouais. Combien d'hommes qui ont des problèmes de pornographie aujourd'hui? Hein? Il y en a un seul qui l'a confessé ici durant un baptême. Il dit que depuis l'âge de 11 ans, qu'il avait été esclave de la pornographie. Aujourd'hui, il en est délivré. Parce qu'il l'a confessé publiquement. Il y en a d'autres pour paraître des chrétiens purs, des gros chrétiens, des grosses têtes. Ils préfèrent mourir avec leur péché dans leur corps. C'est épouvantable, quoi. Ouais. Moi, j'ai eu ce problème-là dans ma vie. J'ai confessé. J'ai délivré. Vous savez, quand vous êtes dans la police, vous arrêtez des gars avec des paquets de cassettes et que vous devez les visionner une par une pour savoir quelle charge vous allez porter, ça laisse des traces, ça. Même quand tu te convertis. Et je l'ai confessé. Dieu m'a libéré. Il y a des gens, écoutez, qui ont la tête bourrée de toutes sortes d'images qu'ils ne devraient pas. Et ils préfèrent sombrer, faire des cauchemars avec ces images-là plutôt que de les confesser. J'ai appartenu, dans la première église que j'ai appartenu, une église de 700 personnes, dans un moment de louange, une sœur a confessé qu'elle avait trompé son mari. Il faut le faire dans une église, hein? Ouais. Et un homme s'est levé, confessé qu'il avait trompé sa femme. Et un réveil qui s'est passé dans cette église-là ce jour-là. Le pasteur n'a pas été capable de prêcher. Les péchés se sont confessés un par un. Et Dieu, à partir de cette église-là, a pu créer une autre église et une autre église. Hey, frères et sœurs, l'esprit d'humilité va nous amener à confesser nos péchés. Que celui qui est sans péché, s'il lance la première pierre ce matin. Que celui qui est sans péché, s'il peut se lever avant que le culte se termine et qu'il puisse partir ce matin. On a tous nos problèmes, on a tous nos combats, on a tous nos luttes. Et la délivrance, elle passe aussi quand on est capable de trouver quelqu'un en confiance et de dire, je confesse mes péchés, j'ai besoin que tu pries pour moi. Ça se fait, il y a un petit groupe dans l'église qui le fait présentement. Vous savez, Charles Finney, ce qu'il faisait, il a pris une liste et il disait, parce que souvent on demande aux gens, tu as demandé pardon au Seigneur pour tes péchés, c'est quoi déjà? Un peu, je vais y penser. Une grosse repentance, hein, je vais y penser. Ouais. Finney disait, lui, tu as eu le courage de commettre tes péchés un par un. Tu devrais avoir le courage de les confesser un par un. Alors, il disait, prends ta feuille, prends ton feuille de papier, puis vois le plus loin que tu vas dans ta vie, que tu te rappelles, et écris, commence à faire la liste des péchés, puis après, tu les confesseras un par un. Tu vas voir comment ton cœur était sale. Ben moi, j'ai fait ça. Et à 5 ans, je me suis aperçu, c'était mon premier voile, c'était à 5 ans. Dans la poche d'un manteau d'un professeur à l'école. Je me souviens pas la somme d'argent que j'avais pris, mais le Seigneur m'a ramené à 5 ans, quoi. Hey, j'ai dit, Seigneur, moi, je pensais que j'avais commencé à voiler à 18 ans. Mon œil, t'as commencé à 5 ans. Et je l'ai confessé. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont pris avec la pornographie depuis l'âge de 25 ans. Ben non. Il y en a un qui était assez imbécile de leur montrer une photo quand ils avaient 5-6 ans. Ça les a corrompus, ça. Si on fait ça, pourquoi j'ai un problème de pornographie? Pourquoi j'ai un problème dans tel péché? Vous dressez la liste, et là, vous les confessez un par un. Et là, vous allez comprendre l'importance du sang versé à la croix. Là, vous allez comprendre que si Dieu vous avait traité selon ce que vous méritiez, en fonction de ce que vous avez fait, vous ne méritez rien de l'amour de Dieu. Mais que Dieu passe par-dessus et que tous ceux qui se repentent et qui se convertissent, Dieu efface ses péchés à travers Jésus-Christ. Amen. Hein? Ouais. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.